Comment l'entendez-vous, Philippe Solers?
Mais j'entends d'abord son nom. Et son
nom, prénom aussi
Oui, il a fini par perdre son prénom, justement, avec un nom pareil. C'est-à-dire vraiment un nom inouï qui fait penser à un sursaut de la vie, comme sa musique aussi l'exprime. Mais pour moi, c'est le nom alors qui convient le plus à la ville où il opère. Il opère, ce père de l'Église, ce prêtre musicien. C'est très important qu'il soit prêtre, je crois. Et que de même qu'il est très important que Monteverdi soit rentré dans les ordres lui aussi à la fin de ses jours. C'est vraiment la façon de célébrer une liturgie, mais une liturgie bien spéciale, qui est la liturgie de Venise. Et donc, pour moi, c'est l'adéquation complète entre... ce qu'il y a de si léger et admirable à Venise, et la translation, la traduction en musique de ce miracle vénitien qui, alors là, éclate à chaque instant et qui donc a des aspects à la fois rythmiques et théologiques. Voilà comment j'entends Vivaldi, c'est-à-dire comme la vie, la force de la vie absolument irrépressible. Et je trouve que c'est étrange qu'on en ait fait un musicien mineur, qu'on ait, au fond, les gens qui aiment la musique sont un peu gênés par rapport à Vivaldi, comme s'il était trop physique. C'est un musicien extraordinairement physique, physiologique, je dirais même, avec peu de calcul et une extraordinaire force d'invention entraînante, quoi, et qui, moi, me ravit.
Oui, vous l'avez surtout considéré sous l'aspect de sa musique religieuse. Je constate qu'il n'y a pas de concerto, il n'y a pas de sonate pour violon ou autre instrument, ni concerto. C'est surtout de la musique religieuse, et même uniquement, je crois, en ce qui le concerne. Parce que dans ce programme, il n'y aura pas que Vivaldi. Il y aura un petit peu Scarlatti, un petit peu Bach, n'est-ce pas?
Voilà, j'ai essayé d'indiquer que d'une part il n'y a pas de musique religieuse et de musique profane, tout ça c'est la musique, et que distinguer la musique religieuse,
oui,
c'est vraiment commencer à refouler la question de l'étendue de la musique.
Oui.
Donc j'aimerais bien faire rentrer, sans spécification particulière, ce qu'on appelle en général religieux, c'est-à-dire que cette façon de se protéger du religieux me paraît très étrange en l'appelant religieux, justement. Pour moi, il n'y a ni religieux ni pas religieux, il y a simplement l'étendue de la musique. Alors, il y a tout ce qui se passe par la musique soi-disant profane, et puis il y a ce qui passe par ce qu'on appelle, et on a tort, la musique religieuse. Mais la musique religieuse, qu'est-ce que c'est? C'est un texte. Un texte tout à fait précis, extrêmement codé, et qui se dit, pour la musique occidentale, en latin, en italien ou en allemand. Et le passage, justement, du latin à l'allemand, par exemple, de Vivaldi à Bach, me paraît un événement considérable. C'est un événement qui est à la fois historique et intra-théologique, puisque c'est le moment où Luther, traduisant la Bible, on peut la chanter en allemand. Et je crois que toutes ces questions n'ont pas été suffisamment étudiées. C'est-à-dire comment, à un moment donné, tout ce qui s'est donné comme sacré, chanté dans une langue, bascule dans une autre langue. Alors là, je crois qu'il y a entre Vivaldi et Bach un événement considérable. Et puis Vivaldi, ça évoque pour moi aussi quelque chose de très énigmatique qui me semble peu expliqué historiquement. C'est la clôture, la fermeture de l'Italie. C'est-à-dire le soleil couchant, le cri finissant de l'Italie. Vous avez remarqué que les deux musiciens que j'ai choisis par ailleurs, c'est-à-dire Boccherini et Scarlatti, que j'ai choisis exprès pour leur remarquable situation historique, sont tous les deux morts à Madrid. Eh bien, l'hypothèse que je formule là, c'est que ce qui s'est donné d'une façon éclatante en Italie est obligé à ce moment-là d'émigrer. Et ça se voit très bien en peinture. Reprenez par exemple le peintre qui est parfaitement contemporain de cet événement de fermeture, et qui est Tiepolo, qui est un peintre que j'adore, qui est le peintre de Venise, le peintre des plafonds, et le peintre à la fois sacré et profane. Il n'y a pas de distinction à faire entre ce que fait Vivaldi en religion et ce qu'il fait en érotisme, si vous préférez, parce que tout ça, c'est la même chose. C'est la même chose, justement, et c'est de ça qu'on se protège, c'est de considérer l'érotisme qu'il y a dans la religion. Donc on s'en prémunit. On se prémunit de l'extraordinaire jouissance sexuelle qui déborde, comme par hasard, dans le langage de la religion. Et c'est ça que je voudrais interroger. Donc Tiepolo ferme lui aussi Venise, comme Vivaldi. Et après ça, je crois que ça passe en Espagne, et c'est très visible, parce que le seul peintre, qu'on peut dire européen, très important, après Tiepolo, eh bien c'est tout simplement Goya. Mmh. Et alors la couleur sombre, cette espèce de basculement dans le négatif, j'ai voulu l'introduire par Boccherini, La Casa del Diavolo, et on pourrait penser à la fois à ce qui se passe en Europe, c'est-à-dire les grands textes démoniaques qui annoncent en effet le basculement de toute la civilisation européenne, c'est-à-dire Sade et la peinture de Goya. Donc là, il y a une fin avec Vivaldi.
Si je peux placer un mot, je voulais dire tout à l'heure que la musique religieuse continue à faire une différence. De Vivaldi est beaucoup plus allègre que sa musique concertante, à mon avis. J'ai toujours été frappée de la mélancolie un peu délétère de certains mouvements lents des concertos. Il y a une grande mélancolie qui est vénitienne aussi, si j'ai bien compris, non ?
Oui, on peut dire ça, mais il y a une très grande joie, une très grande énergie aussi.
Oui, c'est-à-dire il y a une espèce d'énergie désespérée, je trouve, moi.
L'énergie, à mon avis, n'est jamais désespérée. C'est... ce qui est désespéré, c'est l'absence.
Je respecte tout à fait votre point de vue.
C'est l'absence d'énergie. L'énergie n'a besoin, à mon avis, d'aucun commentaire particulier. Ce qui est étrange, c'est que certains êtres, encore une fois, l'atteignent physiquement. Par un branchement tout à fait étrange sur cette espèce de force permanente. Alors, je crois que, tout simplement, Vivaldi est quelqu'un qui traite le canon catholique dans sa plus grande efficacité. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que ça, la musique dite religieuse, qui est pour moi tout simplement la musique, c'est le fait de traiter les dogmes. Alors de quoi va-t-il être question ? Eh bien, c'est ce qui n'est plus étudié, plus personne, en principe, ne devrait pouvoir écouter cette musique, sauf de très loin, puisqu'on ne sait pas ce qui s'y dit. Et là-dessus, je voudrais insister, peu de gens savent de quoi sont faites les messes, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'un Kyrie ? Qu'est-ce que c'est qu'un Gloria ? Qu'est-ce que c'est qu'un
Credo ?
Vous
êtes toujours préoccupé, je vois.
Mais moi, je crois que la musique sort du langage, n'est-ce pas ? Et je sais pas, c'est pas la liturgie
qui m'a dit. Quand on avait fait une émission sur Haydn, ça commençait aussi par un Gloria ou quelque chose comme ça.
Oui, mais je me suis obligé d'insister tellement il me semble ces choses-là sont peu connues. Donc, ces textes-là ne sont pas connus. Ils ne sont pas connus, ils ne sont plus connus. Hein. Ils n'ont peut-être jamais été, enfin. Donc, peut-être qu'on ne s'est jamais interrogé sur ce qu'il y a dans un cadeau, sur ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Avoir une chance d'écouter la musique ou de l'entendre, c'est quand même se demander ce qui se dit là-dedans. Et l'énergie qui s'en dégage, je crois qu'il est absolument indispensable de se demander pourquoi elle vient de ces textes-là et pourquoi Bach manifeste lui aussi une telle puissance de joie. Est-ce que quand même on peut dire qu'il n'y a pas un rapport entre ce qui se rumine sans cesse dans la tête d'un musicien et dans son corps, ce qui se rumine sans cesse à propos de certains textes. Après tout, ces textes ont été triturés, découpés, l'accent sur certains mots a été longuement pensé. Il s'agit de toute une opération quasiment cubiste de découpage, de montage, très moderne d'ailleurs. C'est pour ça que la messe me paraît toujours un genre extrêmement moderne, la messe musicale. C'est-à-dire que ça consiste quand même à prendre certains concepts et à les imprimer avec une grande force. Nous avons écouté tout à l'heure Domine Fili Unigenite. Eh bien, pour commencer cette émission, il est bien certain que Vivaldi, qui connaissait Scarlatti aussi, le texte latin, était obligé de penser, tout en écrivant sa musique, que c'était pas Domine Fili Unigenite, comme ça, des mots qui ne veulent rien dire, mais au problème de la naissance consubstantielle du fils par rapport au père, etc. C'est ça le dogme, n'est-ce pas? C'est-à-dire la Trinité, les rapports entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors comme tout ça est merveilleusement complexe, et qu'en plus il disait la messe, c'est-à-dire avec une sorte d'efficacité sacramentelle, le fait d'écrire la musique des paroles en question suppose une complexité inouïe.
Bon, alors après avoir entendu ce premier fragment du Gloria, vous souhaitez en entendre plus, du Gloria de Vivaldi.
La gloire, on va écouter ce qu'il pense de la gloire.
Voilà, alors nous écoutons ça sous la direction de David Wilcox. Nous écoutions de larges extraits du Gloria de Vivaldi dans l'interprétation de l'Académie St. Martin's de Fields, dirigée par David Wilcox avec les chœurs du King's College Cambridge, qui était mis tout au début de son programme par Philippe Solers, qui a consacré ce programme à Vivaldi et à Venise.
À Vivaldi, à Venise, il y a quelques éclairages rasants sur cette époque qui me paraît extrêmement importante.
Voilà, alors justement, je voulais vous poser cette question du baroque et de vous. Le baroque et vous, ça marche bien.
Ben, écoutez, je crois que le baroque reste encore à découvrir. Vous me disiez tout à l'heure, on évoquait les rapports des musiciens au sacré, en somme. Et vous me citiez Marc-Antoine Charpentier, ou Couperin, etc. La leçon des ténèbres, bien. C'est en effet ce qu'on se rappelle quand on pense aux Français. Ils ont tripoté le texte latin d'une façon plutôt ténébreuse et plutôt mélancolique. Et, désespéré, ce qui consonne bien d'ailleurs avec la façon dont le catholicisme français est un catholicisme plutôt de l'oraison funèbre, voire par exemple Bossuet. Ça répond très bien au siècle de Louis XIV et à la façon dont finalement le catholicisme est resté un tout petit peu dans les caves, dans les soubassements, ce qui va donner à mon avis l'enchaînement vers le XVIIIe siècle à partir de la Révolution de quelqu'un qui va tirer alors toute la leçon de ces ténèbres et qui est précisément Sade. C'est pas du tout un hasard si Sade est français. Il n'aurait certainement pas pu être autre chose que français. Donc, dans la musique française, je ne pense pas que vous pourriez me citer une telle dépense d'énergie dans la joie rythmique et la célébration. Vous avez entendu les mots latins, n'est-ce pas, la glorification, la louange, l'adoration, c'est-à-dire toute cette espèce de débordement qui fait immédiatement penser au baroque, mais baroque comment, baroque pourquoi, n'est-ce pas, il faut se poser la question. Eh bien, je crois que ça, c'est une grande impasse de la culture française, et ça peut se résumer d'une anecdote, c'est le voyage de Bernini, de l'admirable cavalier Bernin, le plus grand architecte de tous les temps, supérieur même à mon avis à Michel-Ange, lorsqu'il est venu à Paris, appelé par Louis XIV, qui voulait le disputer au pape. C'est la grande affaire entre finalement la papauté et la royauté française, sur laquelle il faudrait revenir longuement pour expliquer d'ailleurs comment s'est fabriquée l'histoire européenne. Eh bien, quand Bernini est venu à Paris, tout simplement, il avait un projet de faire le Louvre, et on connaît les dessins du Louvre. D'ailleurs, le journal de ce voyage par Chanteloup a été imprimé il y a peu de temps, il faut le lire, et on voit très bien que Louis XIV a finalement refusé. Si nous avons le Louvre sinistre que nous avons aujourd'hui à Paris, si Paris n'a pas été tourneboulé et mis en spirale excessive par le génie pontifical qu'était Bernini, c'est bien une décision du pouvoir royal. Et c'est pour ça que nous avons aussi cet exil de cette splendide statue à Versailles que j'allais voir quand j'étais pensionnaire là-bas, c'est les jésuites, justement. Les jésuites, comme ça. Et que j'allais voir le jeudi après-midi dans le parc de Versailles. Mais elle a été exilée, justement, parce qu'elle était beaucoup trop emportée. Le roi l'a trouvée indécente. Donc le baroque, ça fait penser évidemment au support théologique qui, sans quoi on ne comprend pas le baroque, c'est-à-dire la très grande pensée casuistique jésuite, n'est-ce pas ? Et donc Vivaldi est le musicien jésuite par excellence, de même que Tiepolo est un peintre admirablement jésuite. Mais comme ce mot est entaché d'un sens immédiatement péjoratif et révulsif pour un Français, j'ose à peine l'employer ici, j'imagine déjà les froncements de sourcils des auditeurs. Et pourtant, c'est vrai. Tout ce qui est excessif, exubérant, qui prouve une façon qui exclut justement le recours à la religion ténébreuse, qui prouve donc la vérité de l'excès et du rythme, eh bien, doit être tiré de cette admirable inspiration italienne, c'est-à-dire de Bernini à Vivaldi. On voit très bien l'enchaînement, et puis évidemment, Bach est un musicien baroque. Même à travers Luther, il a pris la leçon du baroque, c'est le musicien baroque le plus grand, et le luthérien Bach a quand même tenu à écrire une messe en latin pour montrer ce qu'il savait faire dans le même style, ce qui est une chose absolument extravagante. Et je crois que c'est pour ça que j'ai pris...
Baroque.
Ben oui, je crois que ce qui m'anime, en effet, c'est... C'est plutôt ça. Il y a un écrivain que j'aime beaucoup qui s'appelle Balthazar Gracian, qui date un petit peu de la même époque, et qui est un apologiste de l'énergie dans la parole, permettant une méditation sur le néant de toutes les apparences. Et je crois que c'est ça le baroque, c'est une formidable entreprise de destruction des apparences par elles-mêmes. Et là où on voit quelque chose d'obscène ou de fétichiste, c'est au contraire la bonne façon de traiter toutes les idolâtries et tous les fétichismes. Il y a deux façons, vous savez, soit par la négation, pure et simple, on ne représente pas, on se méfie de la représentation, on la proscrit. C'est une tradition éminente, n'est-ce pas? Et l'hébreu m'intéresse à ce titre. Ou alors, on traite, pour ainsi dire, le mal par le mal.
Alors, je vois que nous passons maintenant à Bach, justement.
Alors, on passe au clavecin. Mmh. Ce qui m'a paru intéressant, c'est de faire résonner les deux bouts du volume sonore, c'est-à-dire les chœurs ou les voix, et puis cet instrument extrêmement synthétique, très mystérieux, qui me paraît être beaucoup plus que l'orgue, qui est un instrument qui revient, comme vous savez, de même que toute cette musique-là est revenue au sens du retour du refoulé, comme dirait Freud, comme un spectre qui vient accuser un petit peu les gens qui sont en train de manger sans penser à la suite. Donc le clavecin est revenu, ce qui me paraît être la défaite signée. La défaite, alors, d'un siècle qui me paraît devoir être combattu sous toutes ses formes, parce que, en un sens, c'est le siècle d'une éternité infernale, qui est le 19e. La victoire du clavecin est une revanche sur la déclamation du piano. Hein. Et donc, c'est la ruse de l'histoire, c'est que cette fermeture de l'Italie, cet exil du plus grand musicien de clavecin comme Scarlatti en Espagne, eh bien, il aura fallu attendre une révolution technique, celle de la science d'aujourd'hui, pour que revienne ce clavecin et qu'au fond, chaque auditeur puisse se restituer à lui-même les conditions de l'écoute dans un boudoir, la philosophie dans le boudoir, c'est-à-dire la petite écoute de 4 ou 5 personnes lorsqu'on jouait de la musique pour entendre le maximum de violence avec le minimum de personnes pour y assister, ce qui est, à mon avis, une sorte de scène érotique tout à fait évidente. Alors, je crois que c'est très audible dans les variations Goldberg de Bach, que nous allons entendre.
Je ne sais pas s'il l'avait envisagé comme ça.
Mais si, bien sûr, oui. Bien sûr, il faudrait écrire la vie secrète de Bach, dont on fait un... On nous cache Mozart à la télévision, et on nous cache Bach par des bien-pensances indéfiniment répétées. Je crois que il faudrait rentrer enfin dans le pli, dans la nervure de la question. Je ne parle pas du tout de choses qui sont forcément triviales, mais que c'est un rapport étroit avec l'érotisme, qui est un mot finalement très, très banal et qui est relié à l'inspiration religieuse par les liens les plus étroits, comme l'a toujours dit quelqu'un que j'adore, qui est Georges Bataille. Je crois que on entend, si on veut entendre les variations de Goldberg, il faut se demander ce que ça fait dans l'ordre, enfin, du plaisir.